Bonjour à tout le monde,
bonjour aussi à nos visiteurs, on est content de voir des nouveaux visages, ou plutôt de nouveaux anciens ou d'anciens nouveaux, je ne sais pas comment il faut le dire, mais c'est ce qu'on a rapporté. J'espère que vous allez bien, en tout cas je suis heureux de vous revoir, je suis heureux de vous retrouver, et heureux aussi de vous voir rassemblés, réunis. J'étais très content ce matin de ne pas entendre les prières, parce qu'on priait sur l'estrade et je n'entendais rien. Et je me suis dit, c'est bon signe, ça veut dire que les personnes sont contentes de se retrouver, elles discutent, et ça m'a fait très plaisir, c'est sincère. Aujourd'hui, je voudrais vous entraîner dans un exercice qui est un peu dangereux. En tout cas, vous m'avez déconseillé de le faire, mais bon, on a le droit de le faire, bien sûr. C'est un message thématique. D'habitude, on prend un passage de la Bible, et puis on le lit ensemble, et puis on en tire des enseignements. Là, aujourd'hui, je ne résiste pas. Nous traiterons d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur en ce moment. Et c'est pas récent. C'est un sujet sur lequel je réfléchis depuis longtemps. Et je voudrais vous le partager et réfléchir avec vous ce matin sur ce qu'on pourrait réapprendre. Enseigner aussi et aussi appliquer pour nos vies. Alors le thème de ce message, ce n'est pas vivre en communauté, parce que ça on sait tous le faire, enfin, j'espère, là où nous habitons, nous avons à vivre en communauté, là où nous travaillons, nous travaillons en communauté. Le thème, c'est vivre la communauté. C'est le thème dans lequel j'aimerais vous entraîner ce matin. Alors pourquoi ce sujet me tient tellement à cœur? Bien tout simplement, je le confesse, parce que j'observe dans ma propre vie de foi, un certain ralentissement. Un ralentissement, bon, on peut en trouver bien des raisons, des causes aussi. Alors bien sûr, on vit dans un monde qui nous suroccupe, qui nous surendette, on pourrait dire. On est en dette permanente, on est en dette de sommeil, on est en dette de plein de choses, on est en retard dans son travail, on lit plus ses mails, tellement on en a. Moi, je vous avoue, je consulte maintenant mes courriels personnels une fois tous les 15 jours. Tellement il y en a du côté du travail, on a 15 adresses. Alors oui, tiens, c'est vrai, je n'ai pas relevé cette adresse-là. Maintenant, il y a WhatsApp. Mais tu n'as pas regardé ton WhatsApp? Non, je n'ai pas regardé WhatsApp. Voilà. Donc, je ne suis pas en train de chercher des excuses. Je veux simplement dire que la vie, ça c'est le monde moderne, nous suroccupe. Alors, lassitude, attaque du malin, je ne sais pas. En tout cas, j'observe dans ma vie un certain ralentissement de vie de foi et aussi de vraies bonnes excuses, et je dis bien de vraies bonnes excuses, qui m'empêchent de vivre une vie communautaire avec vous comme je pouvais encore en vivre il y a quelques années. Alors, en effet, si moi qui, là, suis devant, étant un des responsables de l'Église, je ne peux pas assister à toutes les réunions pour toujours, encore, je le précise, de bonnes raisons, je suis rarement devant ma télé, de toute façon, je n'ai pas de télé, comment je peux inciter mes frères et mes sœurs à participer aux études, aux réunions de semaine, si moi-même, je ne peux pas y participer, ou si je n'y participe pas? Donc ne pensez pas que ce matin je vais vous prêcher une vie de devoir, fais ci, fais ça. C'est pas du tout mon genre, premièrement, et puis en tout cas ce n'est pas du tout le but ce matin de cette prédication. Alors je vous propose de traiter de ce thème, la vie, pas en communauté, mais vivre la communauté, de trois manières différentes. Alors ça va être très simple. Simple mais dense. Je vous avertis tout de suite. Je vais essayer d'être le plus communicatif possible. Dans un premier temps, on va regarder comment les premières églises, des premiers temps, des premiers siècles, s'y prenaient pour vivre la communauté. D'accord ? Ensuite, on va prendre exemple sur notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ que nous devons, nous, enfants de Dieu, imiter. Soyez mes imitateurs, hein ? Eh bien, nous allons regarder comment Jésus s'y prenait pour vivre la communauté, sa façon de vivre la communauté. Et enfin, dans un troisième temps, nous tirerons quelques conseils, on en tirera quatre, quelques conseils, quelques remarques aussi, c'est pas vraiment que des conseils, mais des conseils-remarques, pour nous aujourd'hui, communauté d'aujourd'hui, communauté du 21e siècle. Alors, comment les premières églises s'y prenaient pour vivre la communauté? Alors, je vais vous lire un passage. Alors, on pourrait en parler pendant des heures. J'ai eu beaucoup de mal à préparer ce message parce que on pourrait en parler pendant des jours. Je vais vous lire un passage des Actes. Alors, évidemment, si on parle des premières églises, je ne vais pas vous lire un autre passage qu'un passage des Actes. Actes 2, versets 42 à 47. Je vais lire pas mal de versets si vous n'êtes pas obligé de chercher. Alors, il s'agit des premiers chrétiens. Ils persévéraient, alors déjà, ça y est, un gros mot, ils persévéraient. Persévérer, c'est un mot qui impose, qui implique de se donner du mal. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain, on va le faire tout à l'heure, et dans les prières. Alors, on a déjà prié ensemble. La crainte s'emparait de chacun et il se faisait beaucoup de prodiges et de miracles par les apôtres. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Alors ça, c'est étonnant. À peine Jésus parti, les premiers chrétiens étaient tellement pleins de Jésus, tellement remplis de joie de se retrouver, qu'ils vivaient quasiment ensemble. Ils partageaient le même lieu. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous. Selon les besoins de chacun. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient leur nourriture avec joie et simplicité de cœur, louant Dieu et trouvant grâce auprès de tout le peuple. Je ne sais pas quel effet ça vous fait. Moi, je trouve ça magnifique, comme vie communautaire, n'est-ce pas? Je ne sais pas, vous êtes d'accord? On aurait envie de vivre une telle période. Faut-il considérer ces pratiques comme une norme pour aujourd'hui? Alors, la réponse est évidemment non. Les circonstances ont bien changé en 2000 ans. Les besoins aussi. Beaucoup de commentateurs et de théologiens, d'ailleurs, ont écrit des choses sur cette pratique, sur cette vie communautaire de l'époque des premières églises. Évidemment, on ne peut pas tout calquer au 21e siècle. Mais on sait très bien que ce n'est pas la norme. Et comme on sait que ce n'est pas la norme, eh ben on se dit, bon, bah, tout ça, on le raye et puis on passe à la suite. Mais non, est-ce qu'il n'y a pas quelque chose dans ce passage d'Acte 2 qu'on pourrait aujourd'hui, 2000 ans après, conserver? Est-ce qu'il n'y a pas au moins une petite chose qu'on pourrait garder? J'ai envie de dire, oui, ce n'est pas la norme, mais il y a des choses qu'on peut récupérer. Je prends des exemples. Persévérer dans la communion fraternelle. Pourquoi ça ne serait pas la norme aujourd'hui, chers amis, chers frères et sœurs? Qu'est-ce qui nous empêche de faire de même? Un autre exemple tiré du passage. Ils étaient assidus au temple. Là, cette attitude se passe de commentaires. Un dernier... Ils s'invitaient les uns les autres pour manger. Je dirais rien. Alors, voilà qui est bien sympathique, n'est-ce pas? Ils s'invitaient les uns les autres pour manger. Il n'y a rien de spirituel là-dedans. Ben oui, on peut très bien, et je sais que beaucoup dans l'Église le font, et nous en avons été les bénéficiaires. Nous avons été invités chez vous, à votre table, pour partager un moment de convivialité, rien de bien spirituel, mais ô combien fédérateur. Une vie communautaire, chers amis, n'est pas uniquement une vie de réunion biblique. Plus tard, dans le livre des Actes, on lira une phrase qui, moi, m'a bouleversé. C'est Acte 4, verset 32. Je vous la lis. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Wow. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Est-ce que vous trouvez, comme moi, que cette phrase est belle? Oui, ça donne envie, n'est-ce pas? Est-ce qu'à Palaiseau, On peut dire que nous sommes qu'un cœur et qu'une âme. J'espère que oui, chers amis, en tout cas, il y a un énorme potentiel dans cette Église. Deuxième partie, voyons comment Jésus a vécu sa vie communautaire. Alors évidemment, arriver ce matin en disant « je vais vous dire tout ce que Jésus a fait » serait pure folie et très grosse prétention de ma part. Je vais vous en lister quelques-unes tirées tout droit des évangiles. Alors Jésus avait l'habitude d'aller dans les maisons, et il y a beaucoup de textes qui disent « de retour à la maison ». Jésus allait des maisons, dans les maisons, et parfois dans des maisons de personnes qui n'étaient pas forcément bien considérées par des gens qui avaient mauvaise vie, des gens qui géraient les finances et qu'on n'appréciait pas beaucoup. Mais Jésus allait manger avec eux. Jésus était attentif aux besoins de la foule qui le pressait. Il a renoncé à des temps de repos pour aller enseigner cette foule qui s'était rassemblée auprès de lui. Il y a des textes qui nous disent qu'il est parti pour aller prier, mais finalement, ému par cette foule qui le suivait, lui dit, bon, Jésus a annulé son temps, donc il a pris sur lui, il a renoncé à un temps de repos pour continuer à travailler et à œuvrer pour la foule rassemblée. Il a fait du bien à des gens qui étaient dans la synagogue, donc on pourrait transposer en disant dans le bâtiment de l'église. Il n'est pas venu pour consommer, il est venu pour faire du bien. Il a fait des détours à pied pour aller aider les autres. Il a traversé un lac pour aller sauver un homme pris par des démons. Il a nourri des milliers de personnes affamées. Il a accueilli celles qu'on voulait lapider. Il a été patient avec ses disciples qui avaient du mal à saisir la portée de ses enseignements. Il a pleuré avec ceux qui pleuraient. Il a aussi repris sévèrement ses disciples quand cela était nécessaire. Ça fait partie de la vie communautaire. Il priait avec eux. Et j'en passe, et d'autres encore. J'ai envie de dire plus généralement comment Jésus s'y est pris. Et là, je vais vous lire trois versets. Voilà comment Jésus a géré sa vie communautaire. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu. Non pour être servi, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de beaucoup. Voilà comment Jésus concevait sa vie communautaire. Donner sa vie. Il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie à arracher. On sait qu'il a l'égalité avec Dieu, mais il n'a pas tout fait pour dire « Attendez, c'est moi le meilleur, vous allez voir, poussez-vous, je suis le patron ici, c'est moi qui commande. » Il n'a pas regardé, non, il s'est dépouillé. Nous dira le texte. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Voilà comment Jésus concevait sa vie communautaire. Quel enseignement pour nous, chères sœurs, chers frères, pour nous chrétiens du XXIe siècle, qui avons nous aussi à vivre une vie communautaire, une vie de communauté. Quels exemples ces premiers chrétiens et Jésus nous donnent. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que Jésus avait le souci de l'autre. Il a connu une vie communautaire nourrie, variée, quotidienne, permanente, de tous les instants. Et son investissement et son abnégation ont été poussés à leur comble par cette mort volontaire à la croix. Alors ça, si c'est pas du don de soi, qu'est-ce que c'est ? Il s'est donné à la croix pour nous, pas pour lui. C'était pas pour se vanter, pas pour se mettre en avant. C'était pour nous. Qu'en est-il de nous, mes chers amis ? Je crois que nous avons de la marge. Alors, quelques conseils pour notre communauté du XXIe siècle. 4. Je rappelle que le thème de ce message, ce n'est pas la vie en communauté, mais vivre la communauté. Comment nous y prendre aujourd'hui ? Comment m'y prendre, moi qui viens de vous confesser que ma vie de foi connaît un ralentissement évident. Alors bien sûr, dans ce que je viens de vous rappeler, dans la vie des premiers chrétiens, dans la vie de Jésus, il y a une quantité de conseils qu'on peut reprendre pour nous, je pourrais m'arrêter là. Et je voudrais vous laisser ces quatre conseils. Le premier de ces conseils, c'est l'importance de la vie communautaire. Pourquoi ? Quel intérêt ? Moi, j'ai envie de vivre ma vie de foi tout seul. Je vois pas l'intérêt. Eh bien, Jésus nous invite, avant son départ, nous inviter à aller. À aller dehors et faire des disciples, annoncer sa parole, les baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il me semble inutile, chers amis, de nous engager tous ensemble, nous qui sommes une communauté, il me semble inutile, contre-productif, et même une erreur, de nous engager dans de grands projets communs, tant que nous n'arrivons pas à vivre la communauté. Ça me paraît essentiel. Comment nous engager dans un projet qui veut, à terme, faire des disciples, bien sûr, ce n'est pas nous qui le faisons, c'est Dieu qui nous a demandé d'y aller. Si nous nous avançons à l'extérieur divisés, ou alors sans conviction, c'est-à-dire avec une certaine nonchalance, j'ai pas envie, ou j'ai pas le temps, ou... Si je fais lever les mains en disant qui adhère à ce projet, qui est prêt samedi prochain à sortir. Si dans la communauté, deux mains se lèvent, il me semble qu'il y a un problème. C'est là le témoignage, la manifestation d'un souci. Et donc pour moi, il y a effectivement une remise en question avant de sortir, c'est de nous examiner nous-mêmes. Je peux vous dire que ce travail, je le fais en ce moment sur moi-même, le constat n'est pas joli. Je pense que pour vous, c'est mieux. Mais je pense qu'il y a un souci s'il n'y a que deux mains qui se lèvent. Alors bien sûr, j'ai pris un exemple flagrant, mais samedi prochain, il y a la salle à remettre en ordre pour le concert que nous avons prévu, c'est un exemple, hein. Qui est prêt à venir ? Ah bah, allez, s'il vous plaît, s'il pouvait y avoir trois mains qui se lèvent, bon, s'il y a trois mains qui se lèvent, c'est peu, c'est trop peu. Bien sûr, alors mais je sais que nous avons tous de très bonnes raisons, et des raisons valables, mais je vais arriver un petit peu plus tard à des résolutions que nous pouvons prendre. Inquiétons-nous effectivement d'abord, chers amis, de notre engagement, de notre motivation et de nos relations avant de nous engager dans de grands projets. Deuxième conseil, vie communautaire rime avec amour fraternel. Je le redis, vie communautaire rime inévitablement avec amour fraternel. Oui, vivre ensemble harmonieusement, c'est inenvisageable sans amour mutuel. Et ça, chers amis, c'est une vérité qu'on retrouve partout. Un club de pêche d'une commune ne peut pas fonctionner tant qu'il n'y a pas un minimum de respect mutuel. On est d'accord. On voit souvent de grandes équipes nationales sportives ou de grands partis politiques s'effondrer ou échouer lamentablement à leur match ou à leurs élections pour cause de divisions internes. On l'a vu. Eh bien, chers amis, dans une église locale, c'est la même chose. Et je dirais même que c'est la même chose, mais en plus grand, parce que ce respect mutuel, on ne se limite pas qu'au respect ou à l'appréciation réciproque. On parle d'amour, chers amis. On parle d'amour fraternel. Un amour mutuel, c'est un commandement direct, issu du plus grand des commandements que Jésus nous a laissé. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et aimez-vous les uns les autres. Et à ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Oui, mes amis, c'est très important. C'est à notre amour mutuel que les autres peuvent juger si oui ou non. Nous sommes des disciples de Dieu, des disciples de Jésus. Et cet amour ne consiste pas à trouver sympathique notre sœur ou notre frère. C'est une conséquence directe de l'amour de Jésus. Et chers amis, l'amour de Jésus, nous savons où il est, jusqu'où il est allé. Il est allé où, l'amour de Jésus ? Il est allé jusqu'à la mort de la croix. Eh bien, nous ne sommes pas un club de pêche. Nous ne sommes pas l'association de pétanque de la commune. Nous sommes une communauté, une partie du corps de Christ. Nous sommes des frères et des sœurs, et ce terme de frères et des sœurs n'a pas été choisi au hasard. Nous sommes des frères et des sœurs. Et nous nous aimons comme Jésus nous a aimés. Bien sûr, dans une communauté, comme dans un couple, il peut, c'est même pas il peut, il va y avoir des frictions. Il va y avoir des désaccords. Et alors, des désaccords, mais il en faut des désaccords. Et j'ai envie de dire, tant mieux qu'il y ait des désaccords. Parce que s'il y a des accords, il y a manifestation de l'amour fraternel. S'il n'y a jamais des accords, l'amour ne se voit pas. Dans un couple, si le ciel est rose en permanence, on ne peut pas dire « Ah, vous voyez comme ils s'aiment ». Non. On ne peut juger que deux personnes s'aiment qu'à partir du moment où, à l'occasion d'un désaccord, ces deux personnes l'ont réglé, ont l'ont géré admirablement. N'est-ce pas? Vous êtes d'accord? Donc des désaccords, ben, tant mieux, il en faut. Je citerai une devise que Jules-Marcel Nicole a écrite et que j'ai trouvée absolument géniale. À propos de l'unité des chrétiens. À propos de l'unité des chrétiens, il a dit, sa devise c'est « Sur l'essentiel, sur les questions essentielles, unité. Sur les questions secondaires, liberté. Et pour toutes ces questions, charité. » C'est-à-dire, on est d'accord, ou on n'est pas d'accord, on s'aime, et on continue de s'aimer. Sur l'essentiel, unité. Sur le secondaire, liberté. Sur toute, charité. J'ai trouvé ça super. Troisième remarque. Cette remarque, c'est la tendance actuelle du monde. Je voudrais que nous prenions conscience d'une vérité, c'est que dans nos courant d'église, depuis des décennies, nous avons prêché une vérité, bien sûr, je ne suis pas en train de contester quelque chose qui était dit, et on continuera à l'enseigner, c'est que nous avons avec notre Seigneur Jésus une relation personnelle et intime. Alors là, je pense que tout le monde dans la salle peut témoigner l'avoir entendu au moins 10 fois, 100 fois dans nos églises. C'est vrai ou pas? Oui, nous avons une relation personnelle avec le Sauveur, et c'est vrai. Je ne le conteste pas. Je voudrais simplement dire qu'il y a une tendance que nous ne remarquons pas forcément et qui veut que cette relation personnelle avec notre Seigneur, nous la vivons et nous en entendons tellement parler que nous en avons tendance, allez, je vais parler pour moi, j'ai tendance à en oublier l'aspect communautaire de la vie de foi. Et il est déjà arrivé que des personnes à qui un frère ou une sœur est allé discuter pour savoir où cette personne en était dans sa vie, comment vas-tu? Des personnes se sont vues répondre, ça ne te regarde pas, c'est ma vie, c'est ma relation avec Dieu. Et je pense là qu'il y a une dérive. Il y a un risque, je ne suis pas en train de dire que nous y sommes tombés, je veux simplement dire que cette dérive existe. Oui, nous avons une relation personnelle avec Dieu. Mais oui, il y a aussi danger de vivre tout seul. Et on ne vit pas sa relation avec Dieu tout seul. Je voudrais vous donner un indicateur. Et un indicateur qui n'a absolument pas valeur de jugement. Je voudrais parler des chants. Je me suis livré à un test. Sur Internet, on a une application, un site qui est très bien, qui s'appelle GMAF. Je vous le recommande. J'aime AF, ça veut dire j'aime l'éternel et de la foi. Vous avez tous les chants. Et vous pouvez faire des recherches, vous pouvez écouter tous les chants, hein, les 650 chants des ailes de la foi et les 1000 chants des jeunes éternels. Je me suis livré un exercice, vous avez un moteur de recherche et vous pouvez chercher un mot en particulier, vous cherchez amour. Je me suis amusé à chercher le mot « je », c'est-à-dire pronom personnel, « je ». Je me suis amusé à chercher « nous » et je me suis amusé à chercher « vous ». Et les résultats sont assez surprenants, parce que vous prenez les ailes de la foi, vous avez une dimension du « nous » et du « vous » qui est 5 fois supérieure à ce que les « j'aime », à ce qu'on trouve dans les « j'aime ». Alors, Et même pour le vous, c'est 20 fois plus de vous. Dans les gènes de la... Dans les... Pardon, dans les gènes de la foi. Dans les gènes de la foi, j'allais dire. Dans les gènes de la foi que dans les gènes. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que les chants des gènes de la foi sont meilleurs que les chants des gènes. C'est pas du tout ce que je veux dire. Je veux simplement dire que la modernité, la tendance actuelle va au resserrement et à l'individualisation de la foi. Alors c'est bien, je voulais qu'on nous chantions avant « Nous sommes unis », là il y a « nous ». Mais il y a beaucoup de chants, et vous remarquerez qu'il y a beaucoup de chants dans nos chants modernes qui parlent de « moi ».« Moi j'ai confiance en ta bonté ». Bien sûr, dans les abeilles, on trouve des « je » et des « moi ». Mais voilà une tendance, c'est un indicateur que j'ai trouvé intéressant. Oui, je vis ma relation intime avec mon Créateur. Mais je ne vis pas pour moi seul, je vis pour les autres, c'est-à-dire moi, Jean-Pascal, je vis pour vous. Et vous, vous vivez pour moi. C'est ça une vie en communauté. Quatrième remarque. Quelles devraient être mes relations, ou comment devraient être mes relations avec les autres? Alors déjà, j'aimerais dire quelque chose d'emblée, tout de suite, une règle. On ne bâtit pas des relations avec les autres par devoir. Ah oui, alors le pasteur, dimanche dernier, nous a fait un prêche, nous a dit qu'on devait faire un effort. Alors bon, oh, ça me casse le pied. Bon, alors dans mon agenda, je vais me prendre 10 minutes, et puis j'ai passé mon coup de fil, j'aurais fait baver la semaine, et je continue. Non, par pitié, ne faisons pas ça. Ne tombons pas, c'est normal. Ne tombons pas dans ce genre de légalisme. Pourquoi on veut le faire? Pourquoi on veut bâtir des relations saines les uns avec les autres? Parce qu'on croit, parce qu'on a compris que c'est ce que Jésus attend de nous. Vous voyez, il y a une différence entre se forcer à le faire et avoir compris, croire que c'est ce que Jésus attend de nous. On le fait aussi parce qu'on est convaincu que l'amour de Jésus, dont nous sommes tous les bénéficiaires, va nous pousser naturellement à aimer les autres. Vous avez compris, hein ? C'est l'amour de Jésus qui, au travers de nous, va nous pousser à aimer les autres. Eh bien, cela justifie, chers amis, que le chrétien connaisse une vie d'église nourrie, une vie d'église impliquée. Il ne voudra pas vivre sa foi tout seul, mais en communauté. Le chrétien, poussé par l'amour de Jésus, cherchera, comme ces premiers chrétiens qui ne se quittaient plus, voudra vivre avec ses frères et sœurs pour être encouragé par eux et pour, à son tour, les encourager. Vous avez vu cette relation de dualité? J'encourage, vous m'encouragez. Certes, je le redis, il y a des désaccords et des divisions, mais c'est l'unité sur le fond qui doit prévaloir, et ça doit être l'objet de notre recherche permanente. Le reste, comme je le disais, c'est secondaire. J'aimerais vous présenter trois diapositives. Merci Sylvain d'avance. Voilà, nos relations communautaires. Premier clic, on va prendre, je vais vous imager, j'espère que vous voyez bien, on va prendre deux bonhommes. D'accord? Comment ces deux bonhommes vont-ils communiquer? Eh bien, c'est facile. Là, on est dans un schéma très simple. On est dans une relation de face à face. Je parle avec celui qui est en face de moi, et celui qui est en face de moi parlera avec moi. On va introduire maintenant un troisième bonhomme. Comment on bâtit des relations communautaires avec entre ces trois personnes? Eh bien, cette personne qui vient d'arriver dans le groupe doit bâtir des relations avec les deux qui sont déjà en place. C'est-à-dire que chaque personne qui est sur l'écran a deux flèches, c'est-à-dire elle doit pouvoir discuter, entretenir des relations avec chacune des autres. On est d'accord? Jusque-là, c'est très simple. Introduisons une quatrième personne. Et voyons comment ces relations doivent être construites maintenant. Avec quatre personnes. Eh bien, ça rajoute quelques flèches. Il y a déjà la cinquième personne. Vas-y, tu peux y aller. ça rajoute des flèches. Et à chaque fois qu'on introduit une personne, on rajoute autant de flèches que de personnes présentes. Je vais m'arrêter à 6. Hein. Alors, 6 personnes, qu'est-ce que ça fait ? Alors là, ça commence à être un petit peu plus compliqué. Vous êtes d'accord que ce schéma est absolument imbitable ? C'est ça nos relations communautaires, les amis ? Est-ce que c'est comme ça que vous représentez, que je me représente les relations communautaires dans notre assemblée ? Là, le dessin, on n'y comprend plus rien, il y a 6 personnes. On est une centaine dans la salle. Imaginez le même dessin avec 100 personnes. L'écran serait noir. On n'y comprendrait rien. Alors, comment faire ? Eh bien, je viens de le dire, tout doit passer par l'amour de Jésus. Il y a un écrivain qui disait « Nos relations sont comme dans un central téléphonique. » Alors, comme ancien téléphoniste, je peux vous dire que ça me parle comme exemple. Alors, une installation téléphonique, on va dire une installation téléphonique un peu ancienne, comment ça fonctionne ? Vous avez un central téléphonique, et quand vous vouliez appeler une personne, vous appeliez le central, et c'était le central qui vous mettait en relation avec la personne que vous désiriez appeler. On est d'accord ? Et bon, après l'opératrice physique, la personne qui vous mettait en relation il y a une cinquantaine d'années, une soixantaine d'années, a disparu, mais a été remplacée par une machine qu'on appelle un autocommutateur, qui fait exactement le même travail. Vous n'appelez pas la personne en direct quand vous passez un coup de fil. Vous appelez un autocom, qui lui va appeler la personne et qui vous met en relation. Eh bien, chers amis, dans nos vies, tu peux, vous voyez, dans nos vies de relations, j'ai mis les 6 mêmes bonhommes placés à la même place. Nos relations communautaires sont centralisées, comme une installation téléphonique. Et c'est Jésus qui fait le pont. C'est l'amour de Jésus qui est le moteur, qui est le filtre, le crible de nos relations. Ne trouvez-vous pas que ce schéma est beaucoup plus compréhensible ? Non ? Vous réagissez pas, j'ai peur. Vous avez compris, j'espère. Rien ne m'embêterait plus de partir si vous me disiez « j'ai rien compris ». Vous avez bien compris ? Bien, merci. Oui, chers amis, nos relations entre nous doivent passer par l'autocom. Ils doivent passer par Jésus. Parce que c'est lui qui est le centre de nos relations. Imaginez si je suis en dispute, je suis un des bonhommes, je suis en dispute avec l'un des bonhommes. La dispute ne sera-t-elle pas mieux gérée si la communication passe par le Sauveur ? Ou si c'est je passe par mon ancien schéma avec mes flèches, ah oui, là, on ne va jamais s'en sortir. On va se renvoyer la balle en permanence. Si je parle à mon frère ou à ma sœur animé de l'amour de Jésus, je rappelle que ce n'est pas un amour léger, c'est un amour inconditionnel et qui a été jusqu'à le don de sa vie à la croix, mes relations ne peuvent être qu'excellentes, ne peuvent être que bien gérées, que bien vécues. Oui, j'ai besoin de voir l'autre, j'ai besoin de te voir au travers de Jésus. A l'inverse, si l'autre me regarde aussi au travers de Jésus, la remarque, par exemple, si j'ai dérapé dans ma vie et que François vient me dire « Jean-Pascal, je voudrais te parler, il y a quelque chose d'important, viens, on va discuter ensemble, je voudrais te dire quelque chose qui n'est pas évidente, mais j'ai noté quelque chose dans ta vie qui... pour l'instant, n'honore pas le Seigneur. » Si je sais que mon cher François me parle au travers de Jésus, il va le faire d'une manière qui sera excellente et certainement, je l'accepterai beaucoup plus facilement que s'il vient directement me dire « Tu as tort. » N'est-ce pas ? Donc, voir l'autre au travers de Jésus. Si vous n'y croyez pas, je vais vous lire ce que Jésus lui-même a dit à son Père. Oui, en Jean 17, Jésus a prié. Je vois que je suis très long, je vous demande pardon. J'ai quasiment terminé. En Jean 17, Jésus a prié son Père, il a dit ceci, à propos des enfants, à propos de ses enfants. Je ne suis plus dans le monde, et ils sont dans le monde, et je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom que tu m'as donné, afin qu'ils soient un, comme nous. Vous avez vu ? Afin que nous, en fait, Jésus priait pour nous. Et Jésus priait son Père pour que nous soyons un, comme eux. C'est-à-dire comme Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu l'Esprit. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leur parole, c'est-à-dire nous, aujourd'hui. Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Je leur ai donné la gloire que tu m'as donnée, afin qu'ils soient un, comme nous sommes un, moi en eux et toi en moi, afin qu'ils soient parfaitement un, et que le monde connaisse que tu m'as envoyé, et que tu les as aimés comme tu m'as aimé. Alors là, vu le nombre de fois que j'ai prononcé le mot « un », Jésus insiste lourdement. Nous sommes une famille, et nous sommes un. Et dans ce chant que je voulais chanter, nous sommes unis, dans le mot « unis », il y a le mot « un ». C'est pour ça que je voulais chanter ce chant. Alors en conclusion, chers amis, je sais, nous avons entendu et rappelé énormément de choses ce matin. Comment vivre la communauté au sein de notre petite église locale à Palaiseau ? C'est quoi les solutions ? Eh bien peut-être que, moi en tout cas je le sais, j'ai des décisions lourdes à prendre. Peut-être renoncer à telle ou telle chose, être plus insistant dans mon travail en disant « non, ce soir je ne resterai pas ». Il est 20h passées. Il est peut-être temps que j'aille à l'église. Il y a peut-être des décisions à prendre de réorganiser son temps pour pouvoir être assidu aux réunions. Il n'y a pas que les réunions, je l'ai dit. On peut s'inviter les uns les autres autour d'une table. Un autre conseil, voir l'autre au travers de Jésus sans se forcer à l'aimer. Parce que l'amour de Jésus nous animera à aimer notre frère ou notre sœur. Alors, comment démarrer ? Maintenant, on va partir dans la semaine, dans notre travail, dans nos activités. Pourquoi ne pas commencer par des choses simples ? Alors, bien sûr, on ne sera jamais tout de suite d'un claquement de doigts des frères et des sœurs parfaits. On ne sera jamais. Et pourquoi ne pas commencer par des choses simples ? Et si nous commencions cette semaine, chers amis ? Et si nous prenions la décision, sans nous forcer encore ? Mais animé en disant « Oui Seigneur, tu me demandes de le faire. J'ai compris que tu me demandais de le faire. J'ai compris que ton amour pour moi devait transparaître et s'exprimer à l'extérieur. Qu'est-ce que tu attends de moi ? Qu'est-ce que je peux faire cette semaine qui pourrait participer à la vie communautaire ?» Téléphoner à mon frère, à ma sœur qui est dans la maladie. Tiens, ah oui, tiens, c'est une bonne idée. Je vais faire ça. Et je vais prendre un temps cette semaine pour passer un coup de fil, où je vais inviter une personne qui est dans la souffrance et qui se pose des questions. Et tiens, et pourquoi tu ne viendrais pas manger à la maison ? On n'est pas obligé de parler, on n'est pas obligé de sortir la Bible. Désolé, je vous choque peut-être. On peut simplement manger ensemble et passer un moment à discuter, à rigoler. Mais être ensemble comme ces premiers chrétiens. Comment je pourrais m'engager dans l'église ? Qu'est-ce que je peux faire ? Oh là là, c'est vrai. Il y a Robert qui... J'utilise un prénom exprès. Il y a Robert qui a dit dimanche qu'il y avait une toile d'araignée qui était dans le... C'est un papier fait. Tiens, je sais ce que je vais faire. Je vais rien dire. Je vais rien dire. Je sais où est la clé de l'église. Je vais y aller et je vais aller enlever la toile d'araignée. Et je dirai rien. Et ça fera plaisir à Robert. Parce que Robert est autre. Voilà des choses simples qu'on peut faire, chers amis. Est-ce que vous avez envie de mettre ça en pratique cette semaine ? Est-ce que vous voulez prendre la décision que notre vie communautaire aille de l'avant ? Elle n'est pas mauvaise, notre vie communautaire, après les autres. Je l'apprécie beaucoup. Mais on peut toujours progresser et on peut prendre la décision aujourd'hui. Parce que nous, aujourd'hui, nous y sommes appelés. En tout cas, moi, j'ai compris que j'y étais appelé. Et on le fait pour s'engager. Pas pour moi, je le fais pour vous. Je le fais pour le Seigneur. Et je le fais pour mes frères et mes sœurs. Et mes frères et mes sœurs le feront pour moi. C'est ça des relations nourries. On le fait aussi pour l'avancement du règne de Jésus. Faisons-le alors sincèrement et prenons l'engagement de cette semaine de progresser dans la vie communautaire et pas la vie personnelle tout seul. Est-ce qu'on peut chanter ce chant que François avait prévu, qui cadre parfaitement avec ce message et qui dit « Pardon, Seigneur, pardon d'avoir fauté ». Et il y a une strophe dans ce chant qui nous appelle